Vous savez que pour que l'être humain appréhende la perspective de pratiquer des justes relations, et dans cette progression de non-dépendance, il a été donné en son temps 10 commandements plus 2. Les 10 commandements de Moïse et les 2 commandements qui ont été ajoutés par le Christ il y a 2000 ans, le 11e étant « Aimez-vous les uns les autres », le 12e étant « Que la volonté du Père soit faite sur la terre ». Ces commandements sont à même d'aider l'être du 4e règne à se mettre en marche vers cette porte de sortie. Je parle du 4e, hein, à la porte de sortie. Dans les textes, dans les livres de Bélé, ont été éparpillées 12 observances que vous noterez dans vos lectures, mais ces 12 observances ont été éparpillées. Ça concerne l'être du 5e règne, c'est-à-dire quel repère, quel instinct, quel réflexe doivent être les siens pour s'assumer en tant que centre d'énergie dans un vaste ensemble, dans le vaste ensemble. Nous savons que notre respiration énergétique est de 12 secondes. C'est le premier point capital à intégrer en tant que centre d'énergie. Notre respiration énergétique est de 12 secondes. C'est long, 12 secondes. Pendant ces 12 secondes, se passe le processus qui fait que l'énergie générée par la pensée ou par l'émotion va aller chercher sa source sur l'un des 7 plans de conscience, va effectuer sa descente jusque notre corps éthérique et va tourner 3 fois dans notre corps éthérique avant d'être expulsé. La Terre est difficile à vivre. Comprenons donc que associer d'une façon jumelle à notre pensée, à nos émotions, il y a un mécanisme technique de source et d'expulsion d'énergie. Les 12 observances sont là pour que nous ayons la nature même de notre être, c'est-à-dire d'Abel. En réalité, nous-mêmes, comprenons bien que nous sommes faits d'un soi central que nous sommes en réalité, et de myriades de vies qui sont nos étudiants, et qu'on appelle le non-soi, ou la personnalité. Mais ce n'est pas nous. Simplement, dans la traversée du 4e règne, il nous possède et nous emprisonne. Quand nous cédons au désir, nous puisons les forces sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental concret. C'est notre non-soi. Essentiellement 18 forces, 7 sur le plan terrestre, 7 sur le plan astral, 4 sur le plan mental concret, ce qui nous donne 18. En d'autres termes, il vous faudra appréhender à distinguer les caractéristiques de ces 18 forces lunaires. Voyons maintenant les champs de conscience propre à notre être que nous sommes, et cet être est un initié, puisque sa source vient d'en haut, et cet être est un être de lumière, qui va transmettre à Caïn sa lumière de réflexe, sa lumière de compréhension, sa lumière d'expression. Lumière réflexe, c'est 12 secondes. C'est-à-dire voir venir la situation. Pendant les 12 secondes, il faut éviter, si vous voulez tant qu'on n'est pas en maîtrise, il faut éviter de réagir. Je ne dis pas qu'il faut attendre la dernière 12e seconde, hein, mais je dis il faut qu'on prenne le temps. Et bien évidemment, ayons toujours la vigilance de nous dire que c'est d'abord les lunaires, par le fait qu'ils occupent le terrain, qui vont avoir idée de nous faire réagir en spontanéité lunaire. Alors je vous donnerai le conseil suivant. Adoptez le symbole de la table devant vous. Ce qui veut dire qu'il faut ne pas prendre de plein fouet ce que l'autre peut dire, mais symboliquement le poser sur la table. Ça nous permettra déjà de nous dire, est-ce que l'autre est fondé, est-ce qu'il a raison. Si vous prenez sans réfléchir, vous allez accorder du crédit, on va dire sans distinction, à ce que vous dit l'autre. Et bien évidemment, faisons attention, c'est qu'il y a 7 niveaux de lecture.
C'est pour ça qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche.
C'est une concordance à la chose. Ça veut dire qu'il faut faire les paliers. Je réponds, dans quelle dimension de conscience ? Les 12 observances doivent devenir des réflexes spirituels permanents. Quand vous aurez intégré en réflexe, en instinct spirituel, ces 12 observances, vous ne générerez plus de karma. Puisque vous ne chercherez pas énergétiquement en réponse dans les 18 bandes lunaire. Alors, on va regarder les 12 observances.
1. L'aspect père, c'est unité, unicité, service. Je vous renvoie à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quand l'être s'identifie au père, eh bien, en fait, il assume ces 3 aspects. Plus une vie est avancée dans sa réalité, plus, on va dire, la moindre vie est une partie de lui-même. Donc, à travers les 7 univers, il n'y a qu'une seule vie. Unicité, ça, dans l'aspect père, c'est, on va dire, le premier aspect déjà. Deuxième aspect, l'unicité, c'est-à-dire la vie de l'ensemble, le bien de l'ensemble. Le troisième aspect, servir. La notion de puissance, de pouvoir, liée au Père, n'a d'autre réalité que de servir la vie. Vous voyez le basculement de champ de conscience entre la notion en personnalité et la notion en tant qu'être. C'est pour ça que le maître des guides, il y a 2000 ans, tient à une appellation, je suis le serviteur des serviteurs. Quand vous savez que le premier aspect, dans sa dimension service, s'appelle le sacrifice, que celui qui donne la vie à la planète est appelé le grand sacrifice, il y a un double sens au sacrifice, c'est de se sacrifier pour rendre sacré. Sacrifice, dans son essence, veut dire rendre sacré. Alors, je vais vous lire quelques annotations liées à ces 3 aspects. Il faut bien comprendre que l'unité de la vie, en nous, il y a le souffle de vie, que nous pouvons appeler d'une autre façon Dieu immanent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là est notre racine de vie, qui vient de la monade, laquelle a sa racine dans l'absolu. Celui qui donne la vie à la planète, avec tout ce qui vit dessus, a pulvérisé sa vie pour transmettre la vie. C'est ce que nous appelons Dieu transcendant. Il est le pôle esprit, mais sa vie, la nôtre, c'est la même vie. Quelle est la distinction ? La distinction, c'est que tant qu'un être n'est pas à même de s'auto-créer, il a besoin que soit relayé la vie. Un être humain ne peut pas dire « je projette dans l'immensité céleste et puis je vis dans ma bulle ». Il a besoin d'avoir un monde dans lequel il puisse se manifester. Ayons toujours conscience
que en nous, il y a le Père, dont la caractéristique est le silence, et un jour, ce silence s'exprime. Pour que ce processus s'épanouisse, ayons conscience que celui qui donne la vie à la planète est pour nous un absolu de beauté, de perfection et d'amour. Alors, la question simple, qu'est-ce que nous attendons pour humblement lui ressembler? Pas facile, hein? Mais voilà le challenge. Ce qui veut dire que dans la traversée du règne humain, la dernière partie où l'être appréhende le chemin de la maîtrise, deuxième partie du cinquième règne, les sept dernières vies, en vous rappelant les 700 pour le chemin de l'aller, les 70 pour la première partie du cinquième règne et les 7 dernières vies pour la deuxième partie du cinquième règne. Eh bien, dans cette deuxième partie où l'être a maîtrisé, est censé maîtriser ses vies mineures, donc ses étudiants, il entre en processus d'être aspiré par la vie plus grande dans laquelle il est, au sens où sa vie intérieure devient irradiante et donc entame un processus de libération de ses véhicules, la maîtrise est accompagnée d'un processus de libération des mondes de manifestation qui sont les nôtres. Ce que vous appréhendez les uns les autres, c'est en fait un processus qui est en train de déclencher la sortie de la manifestation, du cycle de manifestation, et par conséquent, la libération de la vie centrale des mondes dans lesquels elle était tombée. Ce processus de libération s'accompagne d'un processus qui, pour l'instant, on ne dispose que de ce terme, d'identification avec celui qui donne la vie à la planète. De la troisième initiation à la cinquième, et au-delà bien sûr, mais à la cinquième, puisqu'en fait, si vous voulez, ce n'est qu'à la septième, que l'être peut dire, celui qui me voit, voit le Père. C'est pour ça qu'à l'époque, Maitreya, qui sortait de la sixième pour appréhender la septième, en était à ses champs de conscience. Et cela, bien sûr, vous emmène à l'aspect unité. Alors, unité, ça concerne unicité, l'autre est une partie de moi-même. Service, la volonté, hein, atmique, le plan de la volonté, le dessein divin, le bien de l'ensemble. Donc l'être assume cette tâche. Mais ça implique qu'il a tourné le dos à la maison du Père. Hein, troisième, hein, plan atmique. Hein, comprenez bien symboliquement, hein, c'est un paradoxe bien sûr, hein, mais ça veut dire qu'en fait, il dit « je ne rentre pas parce que le chantier terrestre, planétaire n'est pas achevé ».
Souhaitez-vous des références? Vous pourriez aller voir au livre 12, à la page 175, est évoqué le Fils de Dieu actif. L'unité universelle, la conscience monadique, vous l'aurez aux pages 292 et 579 du livre 9, c'est-à-dire les rayons et les initiations. C'est surtout pour que vous ayez des repères, hein. Alors, l'unicité et le service va vous amener à vous projeter dans un espace de conscience où là, le terme a été créé. Un Jewakul dit que nous sommes aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de l'homme, avec une nécessité de générer de nouveaux concepts, donc de nouveaux termes. Donc pour répondre, si vous voulez, à ce qui est évoqué là, et notamment les 12 observances, en fait, cela vous projette dans ce concept, je pense que vous allez saisir, de l'individualité à l'universalité, et par conséquent, à l'individu universel. L'aide du cinquième règne, si vous voulez, son évolution recouvre en fait cette notion de l'individu universel. Donc son champ de conscience quitte l'individualité pour devenir universel. Et cela est évoqué à sa manière, si vous voulez, au livre 9, donc toujours à la page 136, Rayon et Initiation. Livre 9.
150, mais...
Ça donne quoi en référence CD ?
186.
Bien, je vous fais une lecture d'un texte, je crois que c'est au livre 4, à la page 319. 4, c'est Magie Blanche. Ces groupes ne manifesteront ni sentiment de séparation, ni ambition personnelle ou de groupe. Ils ne manifesteront aucune ambition de grossir le nombre de leurs membres, puisqu'ils se savaient tous membres d'un seul groupe mondial, le cinquième règne. Ils se rencontreront pour parler de la manière d'aider le monde. En sachant que nous sommes, depuis le début, en profonde méditation, et que cela est une nature à semer dans le mental humain. La réalisation de l'unité essentielle de toute vie engendre les grandes expansions de conscience et conduit à l'identification individuelle avec un plus grand tout. Livre 3, c'est le feu cosmique, 1025. Et au même livre, à la page 683, alors je vous mets en garde, hein, parce que le feu cosmique, moi j'ai une édition qui a 30 ans et quelques, hein, et par conséquent, les nouveaux livres, c'est pas tout à fait les mêmes pages. Hein. Ah, mais en fait, bon. L'homme est un fragment du mental universel. L'unité n'est possible que sur le plan mental. Alors, l'unicité de la vie, qui nous relie plus particulièrement au deuxième sous-plan, c'est l'autre est une partie de moi-même, non à la séparativité. En fait, voyez-vous, ce qu'il faut saisir, c'est que il y a confusion au niveau de la fonction du mental. Le mental, en fait, au lieu d'être dominant et séparatif de la partie éthérique planétaire, doit devenir le véhicule de l'énergie du plan bouddhique, lequel est lui-même sous impression du plan monadique. Le mental est un véhicule. Il est le véhicule qui doit exprimer l'énergie christique, donc des justes relations, l'énergie de la volonté de bien, et, bien évidemment, mettre fin, de par l'influence potentielle à l'énergie de l'unité de vie, et par conséquent, l'unité ne peut se faire que sur le plan mental, parce que impressionné d'en haut. Dans la ronde prochaine, donc voyons ça dans des millions d'années quand même, au milieu de la cinquième ronde, nous sommes dans la quatrième, dans la cinquième race, la cinquième ronde, en son milieu, vous aurez ce qui a été appelé l'apocalypse, c'est-à-dire le retrait de la manifestation du logos planétaire de son monde physique, parce qu'il aura accompli son contrat de vie. Et vous aurez un combat terrible entre ceux qui seront restés bloqués au niveau du mental et ceux qui seront l'expression d'en haut. Hein, c'est pour vous donner une idée. En d'autres termes, ceux qui continueront à être séparés de ceux qui vivront l'universalité. Comment ? Une seule ? Une seule, mais bon, une ronde, c'est des millions d'années. Hein. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a à la fois la durée du cycle, et puis il peut y avoir aussi... le père se retire quand, au niveau contrat de vie, il a amené 3/5 de l'humanité dans le cinquième règne. Donc, voilà.
Comment peut-il y avoir combat si un des deux éléments...
Bah parce que tu l'as une moindre, mais vraiment un moindre aspect actuellement entre ceux qui sont dans l'esprit d'accumuler des biens, des richesses, et puis de l'autre côté ceux qui disent mais non, on doit effectuer le partage. Ça se distingue aujourd'hui. On a une crise. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Nous, on accumule.
Oui, mais au stade auquel tu parles, dans ce temps-là, au niveau de l'Apocalypse, j'ai du mal à saisir comment il peut y avoir combat, parce qu'il faut qu'il y ait deux entités.
Oui. Et là... Bah, tu vas avoir le quatrième règne et le cinquième.
Encore ?
Ah bah oui.
C'est lourd. Hein. Donc, si tu poses des questions, ça n'est pas sorti de l'auberge.
Mais absolument. Tu vois, c'est vraiment la rupture entre d'un côté l'individualité et de l'autre côté l'universalité. Tu auras ceux qui seront passés et ceux qui s'opposeront.
Ça je l'entends, mais dans mon esprit, quand on est dans l'universalité, un véritable stade, l'être universel, il reconnaît l'esprit et il reconnaît la matière. Et l'être qui est en séparativité, il est dans la pensée unique.
Et il est persuadé d'avoir raison.
Voilà, donc normalement, ceux qui sont dans l'unité devraient amortir. J'ai du mal à comprendre, à entendre qu'il y aura encore combat. Mais aujourd'hui, je comprends, on y est en plein. Mais j'ai du mal à comprendre
qu'il y a encore combat. Si, parce que le combat va se faire entre le mental concret et le mental supérieur.
C'est un combat d'amour.
Non. Ah non, 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 non. Mais ce qu'il faut, s'il faut pas perdre de vue, c'est que introduit la notion que la Terre, dans son cycle de manifestation, offre des opportunités pour tous les êtres du système solaire. Donc tu as actuellement des vies qui sont encore à traverser le règne humain, mais qui n'ont pas encore l'opportunité de se manifester. Et ça va être des grands cerveaux qui vont venir emmerder le monde.
Parce que je fais l'analogie avec le corps physique, avec le corps au niveau de la santé, de l'équilibre de santé. Quand il y a maladie, par exemple, on va parler de virus. S'il y a maladie, c'est que le virus a une vibration, et l'être, normalement, devrait avoir une vibration très supérieure. Une personne qui reste en bonne santé, c'est quand sa vibration est à un tel niveau vibratoire, subtil, que le virus, ben même s'il est là, parce qu'il y a un tas de trucs partout, il n'est pas touché, il n'est pas altéré dans son système immunitaire. Et donc, pour moi, le parallèle, je le fais là. Je me dis, si, au niveau de l'universalité, le travail est bien fait, entre guillemets, qu'on est au bon niveau, il ne peut plus y avoir de combat. Puisque de toute façon, la vibration qui est une vibration de séparativité, elle est très basse. Comment va-t-elle atteindre ? Parce qu'on est toujours en dualité, là. Alors.
Oui, oui. Alors, je reprends ton exemple au niveau planétaire. Qu'est-ce qu'un frère noir ? Pourquoi frère ? Pourquoi noir ? Un frère noir fut en son temps amené au livre de la connaissance. En son temps, il est rentré dans la fraternité. Mais on va dire que, sachant ce qu'il sait, il refuse les épreuves karmiques. Et il part du fait de dire, sachant ce que je sais, eh ben je dérobe, je contourne, je bricole. Bah, pour le corps planétaire, ce sont des cellules cancéreuses. Et ce processus de cancer, au niveau planétaire, a démarré il y a 7000 ans.
Et ces cellules cancéreuses, il n'y a pas possibilité de les transmuter et de s'en servir de l'immense
pour... Alors attends. Mais si, mais attends. Mais tu imagines... Attends. J'entends ce que tu dis. Mais il faut voir ce que ça implique pour l'unité en question. Un frère noir, au fur et à mesure que le père fait progresser son monde de manifestation, le frère noir se trouve coincé devant l'alternative où je me soumets à la loi du père et je prends mon parcours karmique avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire toutes les saletés que j'ai faites, je suis obligé de les... Hein, bon. Ou alors je risque d'être annihilé en tant qu'unité de conscience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que notre Terre dans la manœuvre. Il y a la chaîne de la Terre et il y a la chaîne de la Lune qui est le précédent corps de manifestation du logos planétaire de la Terre et qui fut un échec. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas saisir en disant oh ben, on n'a que ce contexte propre actuel. Si tu veux. Le Père, lui, il a tout un ensemble, tu comprends ? C'est la même chose que si toi tu disais, eh ben, ce que j'ai eu dans cette vie m'a permis de solder tous mes comptes. Tu comprends? Et par conséquent, ben, comme on dit, ton être qui gère le passif karmique, il ne peut pas mettre sur le dos de Cain tous des arriérés qui seraient incapables de solder en une seule vie. Tu vois? Bon, et bien tu as le même phénomène, ce qui veut dire qu'en fait, on peut dire aujourd'hui qu'au mieux, ça va encore durer plusieurs millions d'années. Mais qu'à ce moment-là, le combat, il sera essentiellement lié au fils du mental, c'est-à-dire les êtres humains. Parce que ceux qui ont créé l'échec et tout ça, il va falloir qu'ils repassent la moulinette. Vont-ils arriver à... Tu imagines, toi, pour un frère noir qui s'est laissé aller et qui a, comme on dit, c'est... Alors, le terme est complètement inversé. Ils ont violenté, ils ont torturé, enfin, ils ont fait des tas de choses. Il est obligé de, comme on dit, de tout débobiner. C'est le principe de liberté. L'être est libre. Qu'est-ce que c'est qu'un frère noir? C'est en fait quelqu'un qui s'est rebobiné en prison de ses lunaires.
Oui, quelque part qui n'est pas dans son temps présent, quoi. Il est dans le passé.
Enfin, il rétrograde.
C'est intéressant, ça.
Simplement, comprenons bien qu'aujourd'hui, un cinquième de l'humanité est rentré dans le cinquième règne. Que seulement un cinquième assume, donc 4%. Que deux cinquièmes supplémentaires sont à se présenter à la porte du cinquième règne. Hein, c'est pour vous donner la situation générale.
Donc le frère noir dont tu parles, c'est à ce stade-là, c'est la maladie incurable.
C'est le cancer. Pour le père, parce que c'est une partie de lui-même. C'est un cancer, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il fait le frère noir? Il se sépare, et puis il veut absolument, il veut entraîner justement d'autres cellules à se propager et à détruire. Si tu veux, c'est hors de propos, mais comme tu fais ton investigation, faut pas perdre de vue à la fois la planète pour elle-même, la planète dans le système solaire et la planète dans le système cosmique. Et notre petite planète, aussi insignifiante qu'elle est, dans le cycle cosmique présent, joue un rôle très particulier.
Et nous, alors, qui sommes là, on a encore une petite patte dans le quatrième règne.
Il ne faut pas regarder ça sur une seule vie. Il faut simplement vous dire que vous faites partie, avec humilité, simplifié, de la fine fleur de l'humanité. Et que tous les êtres, comme il n'y a jamais, si vous voulez, non seulement de séparativité, mais il n'y a jamais de rupture. Il faut bien comprendre, par exemple, que quand vous prenez l'espace énergétique, donc astrologique, il n'y a pas de séparation entre les signes, hein, et les constellations. Hein. C'est simplement que, bon, on borde, comme on dit, un peu comme un champ d'éclairage, hein, mais ce n'est pas séparé. Bon, eh bien, dans la continuité de la manifestation du Père, ceux qui aujourd'hui, ayant appréhendé l'énergie d'intelligence, ayant appréhendé l'énergie d'amour, ce qui, en d'autres termes, intelligence et amour, donne la sagesse. Ils se sont qualifiés en tant que seigneurs de connaissance, ils se sont qualifiés en tant que seigneurs d'amour, ils se sont qualifiés en tant que seigneurs de sagesse en unissant les deux. Ils se qualifient en tant que seigneurs de compassion, c'est-à-dire l'autre est une partie de moi-même. Et ils appréhendent l'énergie de volonté du Père, dont la caractéristique est le sacrifice. À partir de là, il se qualifie en tant que seigneur de sacrifice. Et ils sont la semence du prochain système solaire. Qui veut dire qu'ils seront les piliers pour faire émerger la manifestation du troisième système solaire. Alors, ce que vous appréhendez, eh bien, s'inscrit, si vous voulez, dans ces phases-là. Il ne faut pas vous regarder avec votre dimension dans la vie. Il faut vous regarder en tant que réussite de vie, au pluriel. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que toute votre richesse à servir la vie, elle est en vous-même et dans le service au monde. Non, c'est les paradoxes de l'occulte, j'explique. Dans les injonctions que vous aurez un jour, vous aurez 5 injonctions. Connaissez, exprimez, révélez, détruisez, ressuscitez. Il ne faut pas penser que la mort, le frère noir, détruit physiquement. Le frère blanc détruit ce qui emprisonne l'esprit et la vie. Voilà, c'est-à-dire que, en toute chose, si vous voulez, vous avez une dimension inférieure, une dimension supérieure. Bon, en fait, Que fait le frère noir? Il manipule les vies mineures, la matière, et il détruit la manifestation. Quelle est l'idée derrière tout ça? C'est d'empêcher que progresse le processus d'évolution. Quand Hitler, qui était un très grand frère noir, met la Svastika, la roue de la vie, bloquée il y a une heure, il sait bien ce qu'il fait. Il dit pas question que l'évolution se fasse. Quand vous faites de la fission nucléaire, vous faites un acte de mort. Vous détruisez le cycle de manifestation d'atomes. Vous leur cassez leur véhicule de manifestation. Quand vous faites de la fusion nucléaire, vous faites progresser la vie. La dimension inférieure de la mort, c'est d'empêcher la manifestation de la vie. La manifestation supérieure de la mort, c'est de libérer la vie emprisonnée dans sa manifestation. Mais cette mort, elle est par fusion, elle n'est pas par fission. Vous comprenez les deux aspects. Donc vous avez une mort négative et une mort positive. Quand actuellement, au lieu d'enfermer des vies mineures dans les appétits physiques, les pulsions et passions, la séparativité, ces vies mineures qui en fait n'ont pas de soi conscience, elles exécutent demander, quand dans les 12 secondes, vous libérez en mettant une autre casaque sur la vie mineure, c'est-à-dire par exemple, oh, celui-là je lui casse la figure, non, je vais tendre l'autre joue. Bon, et bien d'un côté, vous condamnez à la mort des vies mineures, de l'autre côté, vous les libérez de leur casaque qui les emprisonne. Est-ce que vous voyez toute la nuance? Ce qui veut dire que dans le processus de rayonner, des 12 secondes, vous choisissez la dimension de mort, ou la belle mort, ou la mauvaise mort. Voilà. C'est clair, ça va? Alors, bien sûr, comme le pollueur est le premier pollué, d'où l'être mortel, c'est-à-dire obligé de reprendre la roue, condamné à la mort. Alors que si vous les avez deux chemins, rayonner vers l'immortalité, raisonner vers la mort. Quand je dis raisonner, c'est se séparer, hein. Mais ce qu'il faut savoir, et là je reprends pour Elisa, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un être grandit en mental concret, donc en hypermental, plus il bétonne, tu vois, plus il crée, comme on dit, mais vraiment un béton énergétique qui l'empêche de passer. Alors imagine ce que ça donnera, c'est-à-dire qu'à la limite, ils seront, s'ils pouvaient exprimer en tant qu'être, ils diraient, mais